franceinter.fr.
Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les paradis fiscaux.
Je suis français, je paye la TVA, la taxe d'habitation, la taxe foncière, la taxe d'apprentissage, la taxe professionnelle, la taxe sur les ordures ménagères, la vignette, la sécu, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution sociale généralisée, l'impôt de solidarité sur la fortune et la redevance télé. Et là, pour qu'il me reste 3 francs, j'ai un peu fraudé.
Les impôts, pourtant, sont le prix à payer pour avoir une société civilisée. C'était le point de vue du ministre de l'économie de Roosevelt pendant le New Deal. On sait que l'idée n'est pas spontanément et universellement partagée. Elle est même battue en brèche par un certain nombre de particuliers et d'entreprises qui, sans revendiquer la fraude, pratiquent l'optimisation fiscale et par des États et des territoires qui leur offrent des taux bas d'imposition et des écrans de protection, eux, très hauts. On va raconter ici une guerre de 100 ans. Elle ressembla d'abord à une lutte à coups de tête d'épingle. Les premiers territoires concernés paraissaient si petits. Mais il y a 50 ans, les choix de la City de Londres et celui quotidien des grandes sociétés multinationales de domicilier leurs activités les plus profitables là où elles sont le moins taxées ont fait des paradis fiscaux non plus des exceptions, mais des nœuds. Dans l'organisation aujourd'hui des grands projets de production et de services, ils tiennent nécessairement un rôle que défend d'ailleurs toute une industrie du conseil, juristes, avocats, etc. Et réduire leur répertoire s'avère une tâche sans fin à laquelle s'applique avec beaucoup de détermination et d'information notre invité à la marche de l'histoire, j'ai nommé Christian Chavagneux.
Bonjour.
Qui connaît bien ce studio puisqu'il débat tous les samedis dans les matinées de France Inter. Alors vous venez de la London School of Economics il y a fort longtemps, Christian Chavagneux. Maintenant vous êtes à Alternative Économique. Vous publiez à La Découverte avec Ronan Palan Les Paradis Fiscaux. C'est la troisième édition déjà de ce livre fort précieux où vous insistez sur le fait que pour remonter au XVIIe siècle, que les paradis fiscaux commencent à venir dans les têtes au moment de la première mondialisation, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale.
Oui, tout à fait, au moment où les grands États commencent à se construire en Europe, hein, l'Italie, l'Allemagne, même la France commence à organiser ses frontières, et bien à ce moment-là, les grands acteurs économiques éclatent déjà l'ensemble des frontières. Il va falloir trouver un modus vivendi entre ces États qui veulent conserver la maîtrise de leur territoire et ces grands acteurs économiques qui veulent exploser les frontières.
Une chance pour de petits États qui surfent sur la vague des nationalité, l'idée au XIXe siècle qu'on puisse ébrécher la souveraineté est impossible. Alors, tout ça ne va pas se constituer d'un bloc. Vous dites qu'il y a des stratégies séparées qui sont nées, des circonstances qui vont se cristalliser peu à peu, un pilier après l'autre, et on va finir par construire de petites maisons. Au départ, ce seront de micro-États, surtout en Europe, qui seront concernés.
Tout à fait. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas de complot mondial pour installer les paradis fiscaux. Il y a vraiment des stratégies nationales tout à fait spécifiques aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Suisse, en France, un petit peu partout, qui vont faire que, eh bien, à la fin, on va se retrouver avec, comme vous l'avez bien gentiment dit, tous ces piliers qu'on a essayé d'expliquer avec Ronan Palan dans ce livre.
Ah ben, nous sommes très gentils aujourd'hui. Premier pilier, la domiciliation des sociétés. Et allons aux États-Unis, parce que chronologiquement, c'est peut-être dans le New Jersey et dans un État voisin qu'est née cette idée.
Oui, tout à fait. L'idée d'offrir aux entreprises une sorte de moins-disant fiscal, un territoire où elles pourraient s'enregistrer, être un peu moins contrôlées, un peu moins taxées, vient des États-Unis à la fin du 19e siècle. Alors, les avocats new-yorkais jouent un rôle extrêmement clé,
déjà
important.
Les avocats d'affaires
de New York, qui est la place financière américaine à la fin du 19e. Et ils vont voir les gouverneurs de petits États autour qui ont des problèmes budgétaires. Le New Jersey, le Delaware, dit, écoutez, vous avez des problèmes budgétaires, il y a une façon simple de mettre de l'argent dans les caisses. Eh bien, proposer aux grandes entreprises que nous on représente, le fait d'être un petit peu moins contrôlées sur le plan comptable et le fait d'être un peu moins taxées sur leurs activités. Et de fait, ces deux grands États vont développer
deux petits États
économiquement, mais qui vont prendre une place tellement importante qu'aujourd'hui encore, le Delaware, eh bien, c'est là que plus de la moitié des grandes entreprises américaines qui sont cotées à la bourse sont enregistrées pour bénéficier de cette fiscalité et de ces moindres contrôles.
Alors que cet État a peut-être 800 000 habitants au bord de l'Atlantique.
Le Delaware ne ménage pas sa peine pour attirer les individus fortunés, qu'ils soient américains ou non, grâce à l'activité des trusts commencés ici à Wilmington en 1903. Des trusts perpétuels, confidentiels et sans impôt sur le revenu. Bienvenue dans le Diamond State, deuxième plus petit État américain, mais champion toute catégorie de l'incorporation d'entreprises. Les deux tiers des plus grandes compagnies américaines y sont domiciliées, parmi elles Coca-Cola, Google ou encore McDonald's. Et leur siège peut ressembler à ceux-là, de modestes locaux au bord de la nationale, seulement 35 employés, et pourtant, cette agence sert de boîte aux lettres à des dizaines de milliers d'entreprises. Pour sa présidente, on choisit le Delaware pour l'expertise et la souplesse de ses lois, une souplesse qui peut poser problème en termes d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.
Curieusement, c'est un reportage de la télé suisse romande. Parce que, revenons au début de notre XXe siècle, les Suisses vont être parmi les imitateurs en matière de domiciliation de sociétés du Delaware.
Tout à fait. Plusieurs cantons suisses vont se dire que c'est vraiment une bonne idée et donc vont proposer aux grandes entreprises européennes cette fois, puisque les paradis fiscaux, c'est très régionalisé. Vous avez vraiment les Caraïbes pour servir les États-Unis et la Suisse, Liechtenstein, Luxembourg, l'Autriche pour servir l'Europe et puis Singapour et Hong Kong pour servir l'Asie.
Mais avant d'en revenir à la Suisse, vous dites... Il faut qu'on examine les piliers, Christian Chavagneux, les uns après les autres. Alors, il y a un autre pilier, la résidence fictive.
Ouais, alors ça, c'est les juges britanniques, dans les années 20 et même en 1929, qui vont l'inventer. Dès la fin du 19e, début 20e, le fisc britannique amène devant la justice plusieurs cas en disant, voyez, ces entreprises sont des entreprises britanniques, pourtant elles ont des activités à l'étranger, mais nous, comme on pense qu'elles sont britanniques, il faut qu'elles payent des impôts en Grande-Bretagne. Et notamment, il y a un cas, la fameuse multinationale De Beers, la multinationale du diamant, qui en 1906 se trouve confrontée aux juges. Et là, De Beers dit, mais regardez, nos mines sont en Afrique du Sud, l'exploitation, c'est en Afrique du Sud, nos employés sont en Afrique du Sud. Pourquoi voulez-vous que je paye des impôts à Londres? Et là, les juges britanniques disent peut-être que toutes vos activités sont en Afrique du Sud, mais la décision stratégique, les capitaux sont à Londres, vous êtes une entreprise britannique, vous devez payer des impôts. Petit malin, plusieurs entreprises se disent, eh bien, pour échapper à l'impôt, il faut simplement qu'on crée les fameux directeurs de paille. Et donc, Egyptian Delta Land, c'est une entreprise britannique qui fait de la spéculation en Égypte, immobilière, spéculation immobilière en Égypte. Elle construit un conseil d'administration fantôme, complètement, et elle va devant les juges britanniques et dit, regardez, le conseil d'administration, il est en Égypte, on ne doit pas payer d'impôts en Grande-Bretagne, c'est gagné. Le principe de la résidence fictive, c'est-à-dire d'avoir des directeurs de paille qui font croire que l'ensemble de l'activité est dans un pays, alors que la décision stratégique est dans un autre, va leur permettre d'échapper à l'impôt, et ça va marcher du feu de Dieu jusqu'à aujourd'hui.
Alors gardons dans la tête l'idée que le mauvais exemple est donné par les États-Unis et par la Grande-Bretagne, mais désignons...
Ce qui souligne, dès le début de l'histoire quand même, que c'est pas des petits territoires les paradis fiscaux.
Oui,
on est au cœur du fonctionnement de la mondialisation.
Je voulais maintenant qu'on désigne du doigt de plus petits États et ensuite de micro-territoires. Troisième pilier, le compte masqué. Alors on pense immédiatement, comme dans ce film, l'affaire Thomas Kron, à la Suisse.
Tout est là-dessus. Mais à quel nom?
Un nom de code et un numéro.
Et quelle adresse?
Aucune adresse.
Mais... nous ignorons votre identité.
Oh, rassurez-vous, vous me reverrez. Je vous ferai d'autres dépôts de fonds, et eux aussi sont en liquide.
Comptez sur nous.
Amusez-vous bien avec mon argent.
Ah, la Suisse est pionnière, là, dès 1934, et ça commence, c'est une histoire étonnante que vous pouvez peut-être nous raconter, en 1932 à Paris, avec une perquisition dans une succursale de la Banque commerciale de Bâle.
Oui, Édouard Herriot a pris le pouvoir l'été 32 et il a des problèmes budgétaires. Et quand on a des problèmes budgétaires, qu'on est au gouvernement, on veut augmenter les recettes fiscales et on lance la lutte contre la fraude. On voit bien, on comprend bien aujourd'hui que c'est un peu la même chose. Et donc, il y a un commissaire de police qui a, sur une dénonciation, semble-t-il, rentre dans un bel appartement près des Champs-Élysées, dans un hôtel particulier, 5 pièces. Et là, il est donc dans la succursale de la Banque commerciale de Bâle. Et là, il tombe sur un sénateur qui venait toucher les résultats de ses placements faits en Suisse défiscalisés. bien sûr, tout à fait cachés. Ils tombent sur de l'argent liquide et surtout, ils tombent sur une bonne dizaine de carnets dans lesquels il y a en tout 2000 noms qui sont les noms de tous les hommes politiques importants français qui, et puis de tous les financiers, tous les Français importants.
Trois sénateurs.
Qui jouent avec les
recteurs de l'Institut catholique. Alors, le cardinal Baudrillard.
Tout le monde veut cette liste.
Lévitant, merci, monsieur Lévitant.
Personne ne l'a. Et là, il y a le Arnaud Montebourg de l'époque qui s'appelle Fabien Albertin, député socialiste, avocat, qui avec je me suis plongé dans les archives de l'Assemblée nationale et avec un art consommé du suspense, dit monsieur Camille Chautemps, ministre de l'Intérieur, n'a pas la liste. Monsieur Louis-Germain Martin, ministre des Finances, n'a pas la liste. Et ben moi je l'ai. Et il commence à égrener la liste que vous venez de commencer à citer, des grands patrons de presse, deux évêques, 10 généraux, etc., etc. On s'aperçoit que toute la fine fleur politique, ecclésiastique, journalistique utilise la Suisse.
La réaction des Suisses va induire justement cette loi de 34.
Tout à fait. Alors dès 1932, en fait, il y a une discussion au Parlement suisse sur la loi bancaire, puisque les banques suisses sont comme toutes les autres grandes banques mondiales, elles subissent les effets de la crise de 29 qui démarre en Europe en 31. Et donc, c'est très important historiquement de savoir que ce débat démarre dès 32 et que le principe du secret bancaire est inscrit dès début 33. Pourquoi ? Parce que dans les années 60, les banquiers suisses vont dire si on a mis en place dans notre loi de 34 le secret bancaire, c'est pour protéger les avoirs des juifs qui vont être attaqués fin 33 par Hitler. Non, pas du tout. Le principe du secret bancaire suisse est présent dès début 33, avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, et ça consiste à pénaliser tout employé de banque suisse qui donnerait des informations non seulement au fisc suisse, mais au fisc étranger sur l'identité de clients des banques suisses.
Et alors toujours le phénomène d'imitation qu'on voit régulièrement passer dans cette émission, Beyrouth, Tanger, Montevideo, on disait que l'Uruguay était la Suisse de l'Amérique latine et pas par hasard. Et, allez, il faut quand même citer, puisqu'on désigne du doigt maintenant des micros, territoire, la principauté de Liechtenstein.
Oui, alors tout à fait. Il y a une belle histoire qui date déjà des années 20. C'est Ivar Kreuger, qu'on appelait le roi de l'allumette, et qui était aussi un filou de type Madoff, qui a réussi à piquer de l'argent aux États-Unis et il l'a planqué en Suisse dès le début des années 30. Et son frère lui dit, écoute, je viens de déjeuner avec le ministre des Finances de Liechtenstein. La Suisse, c'est pas bien. Si on veut encore plus d'opacité, il faut qu'on mette notre argent en Liechtenstein.
Qui pourrait imaginer les sages liechtensteinois capables de folies spéculatives, eux qui semblent si paisibles, respectueux des valeurs et dévoués à leur prince.
Au niveau de la popularité du prince, à l'intérieur du Liechtenstein, celle-ci est très grande. Et il y a une raison évidente, c'est que le système d'entité juridique qui a été créé en principauté, et créé bien entendu avec la bénédiction du prince, rapporte à la collectivité 10 000 francs par tête d'habitant et 20 000 francs à titre personnel par tête d'habitant. Donc c'est une manne annuelle de 30 000 francs qui tombe. Par conséquent, quel prince ne serait pas populaire en ayant créé un tel système juridique et fiscal ?
Voici les vignes du Seigneur. Pardon, le vignoble du prince. Un prince qui a la chance de régner sur une terre épargnée par la guerre depuis deux siècles, dans un pays sans armée, sans grève et sans syndicat. Un pays qui échappe au racisme, malgré plus de 30% d'immigrés. Il faut dire que pour la plupart, ils sont Suisses ou Autrichiens. Le charme discret d'une monarchie éclairée.
Enfin, quand on dit aussi que c'est la dernière monarchie absolue d'Europe, le prince ayant droit de veto. Par exemple, il est vertueux, il vient de refuser par droit de veto ou de faire en sorte que ce soit refusé l'IVG. Mais il y a peut-être une autre monarchie absolue, continuant à désigner du doigt les micro-territoires.
Pense à Monaco, peut-être,
oui,
c'est ça.
Mais vous ne voulez pas parler beaucoup de Monaco.
Non, Monaco, c'est vraiment un état confetti. On s'en occupe beaucoup en France parce que historiquement, il y a des liens un peu importants. Mais de fait, Monaco, c'est quelques dizaines de milliards d'euros qui passent. À l'échelle des paradis fiscaux, c'est vraiment un petit rien du tout.
Comment la vocation de Monaco s'est-elle éveillée ?
Dès 1869, le prince de Monaco supprime l'impôt sur le revenu parce qu'il a des recettes de jeu. Louis-Philippe ne voulait pas qu'on joue en France et donc Monaco a dit aux Français un peu fortunés, venez donc vous amuser chez nous. Et les recettes liées au jeu étaient tellement fortes qu'il a pu supprimer l'impôt sur le revenu. De ce fait, dès ce milieu du 19e siècle, beaucoup de Français fortunés se disent qu'après tout, c'est un territoire agréable.
Et y compris, pendant longtemps, pour les citoyens français.
Oui, tout à fait, bien sûr, citoyens français, mais c'est surtout en fait les Italiens qui utilisent Monaco beaucoup plus que les Français. Aujourd'hui, c'est un poste de gros problème à M. Monti qui n'arrive pas à récupérer l'argent qui est dissimulé à Monaco.
C'est le moment d'écouter un extrait du roman d'un tricheur. Sacha Guitry, et puis Joe Dassin, qui regrette, mais c'est une chanson bien ancienne, de ne pas être né à Monaco.
Si l'on me demandait qu'est-ce que c'est que Monaco, je répondrais c'est une opérette. En effet, voyez donc cette principauté souveraine composée d'une ville et d'un village. Ce pays qui n'existe pas puisqu'il n'a pas de nom. En effet, Monaco, c'est le nom du village. Et Monte Carlo, c'est le nom de la ville. Et si le village est ancien, la ville, elle, est moderne. Et s'il est monégasque, elle est cosmopolite. Chaque étranger peut se vanter d'y être absolument chez lui. C'est un cas unique. On y voit des Anglais, des Chinois, des Cubains, des Hindous, des Nègres, des Hongrois, des Finlandais, des Égyptiens, comme partout ailleurs. Mais ce qui fait qu'ils sont chez eux plus que partout ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de monégasque à Monte-Carlo. Ce n'est pas une ville étrangère, c'est une ville pour étrangers.
Pour avoir la foi, il faut être charbonnier. Pour être mal chaussé, il faut être cordonnier. Pour séduire la foule, faut chanter la pêche au moule. Et pour pas payer la peau, il faut naître à Monaco. Et c'est comme ça, on y soit qui mal y pense. Faut souffrir en silence. Ça sert à quoi de vouloir quitter la France quand on est auvergnat? On peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. On peut pas, c'est évident, payer content quand on n'est pas content et réciproquement. Pour être légionnaire, faut sentir le sable chaud. Pour bien dire les vers, il faut être moulineau. Pour faire des affaires, faut savoir payer impôts. Et pour pas payer la peau, il faut naître à Monaco. Et c'est comme ça, les Anglais sont britanniques, les jardins botaniques. Ça sert à quoi de vouloir quitter l'Afrique quand on est du Ghana? On ne peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. On ne peut pas, c'est évident, payer content quand on n'est pas content et réciproquement.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec aujourd'hui Christian Chavagneux, qui après avoir tenté une brève histoire des crises financières, c'était à la découverte, avec son compère Ronan Palan, nous donne la troisième édition, il faut bien ça, des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, dites-vous, dans ce livre publié à la découverte, c'est toujours dans l'actualité. Mais aujourd'hui, nous essayons de rechercher leur histoire. Alors jusqu'aux années 60, les paradis fiscaux sont restés un privilège quoi, pour quelques grosses fortunes, pour quelques grandes entreprises. Un changement majeur, dites-vous, à partir de la fin des années 1950, induit par la stratégie bancaire de Londres.
Oui, c'est 1957, il y a, comme très souvent, les dirigeants de la Banque d'Angleterre qui sont là pour contrôler la finance britannique, eh bien, passent dans le privé. Et là, il y a un contrôleur qui s'appelle George Bolton, qui va sortir de la Banque d'Angleterre, reprendre la Bolsa, la Bank of London South America, donc une banque qui, en fait, s'occupe de choses qu'on ne connaît pas bien. Les techniciens appellent ça les euro-dollars, ça n'a rien à voir avec l'euro, c'est-à-dire c'est des dollars qui circulent en dehors des États-Unis, qui sont déposés et qui sont prêtés en dehors des États-Unis. Et là,
des capitaux hors sol.
Les capitaux, c'est ça.
Qui circulent sans grand...
offshore, qui circulent en dehors de leur territoire d'origine. Parce que il y a, par exemple, quand on exporte du pétrole et qu'on est payé en dollars, ben, on ne le garde pas forcément dans son coffre ou sous son matelas. On laisse dans les circuits financiers internationaux. Et il y en avait déjà quelques-uns à la fin des années 50. Et ce George Bolton, il se dit, et la Banque d'Angleterre avec lui, dit la livre sterling ne reprendra jamais le lustre, l'importance qui a été le sien à la fin du 19e siècle. Et donc, par contre, il y a une monnaie forte, très importante, qui va prendre un rôle mondial, qui est le dollar. Et plutôt que d'essayer de redonner du lustre à la livre sterling, essayons d'être l'endroit où ces dollars qui circulent en dehors des États-Unis, ben, ils vont être déposés et prêtés à partir de chez nous. On va gagner les commissions.
C'est comme ça qu'on redonne de la superbe à la City qui en avait perdu beaucoup.
Et c'est une stratégie extrêmement efficace. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, la City de Londres est bien souvent le premier centre financier mondial devant les États-Unis. Ça a marché.
Et les banques étrangères, dans les établissements bancaires de Londres, c'est une proportion considérable.
Ah, tout à fait, c'est une proportion extrêmement importante. D'ailleurs, c'est une caractéristique des paradis fiscaux. Toujours, la finance joue d'un poids extrêmement fort, trop fort par rapport à l'économie réelle.
Alors, j'ai bien compris qu'il faut se tourner maintenant, dans cette seconde partie de l'émission, vers les grandes puissances. Et restons un peu dans le domaine britannique. Le domaine britannique, il est très étendu. C'est-à-dire que quand on est un employé de la City, on peut avoir son compte domicilié à Jersey, ou à l'île de Man, ou à Guernesey, et de là après, par bond et rebond, lancer des opérations.
Ou même directement aux Caïmans, aux Bermudes, aux Bahamas. Il faut savoir quand même que cet empire britannique, hein, cet empire colonial britannique, dans la version anglaise de notre livre, on a un chapitre qui s'appelle l'Empire contre-attaque.
Mais paradis fiscaux, nouvelle vague.
Vous me faites plaisir.
Comment ça?
C'était des banquiers.
Qui?
Qui? Les types en cravate. Vous transférez tout votre argent. Vous êtes prêt à fuir.
Et si jamais c'était vrai?
Qu'est-ce qu'il vous resterait?
Ni le monnaie, ni les 5 millions de dollars, ni moi.
Et alors?
10 millions, est-ce que ça irait?
Pour échouer? Ou pourrais-je les cacher?
Je vous aiderai.
Vous croyez que le simple mot bonheur soit possible dans notre cas?
Maintenant que vous avez la main coincée dans le pot de confiture, comment vous allez l'enlever?
Encore un film inspiré par le personnage de Thomas Crown. Et on est maintenant dans les années 80 et aux Bermudes. Mais c'est quoi? C'est 50 km carrés au nord-est des Antilles.
Et oui, pourtant, chaque fois qu'il y a eu des listes pour dénoncer les paradis fiscaux, on a toujours retrouvé les Bermudes.
On parlera des listes tout à l'heure. Mais ce qu'on constate, c'est que plus le paradis fiscal est récent, dites-vous, moins ces pratiques sont... comment dire, recommandable.
Bah oui, il y a un effet de concurrence. Hein. Donc, au fur et à mesure que vous voulez essayer d'entrer sur le marché, il faut trouver des niches de plus en plus étroites et malheureusement, elles sont souvent de plus en plus illégales.
C'était moins vertueux, l'extrait qu'on a entendu, que celui qui présentait le prince de Liechtenstein.
Tout à fait.
Le système offre beaucoup d'opportunités aussi aux stratégies des entreprises mondialisées. Et c'est là peut-être le principal ressort.
Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on essaie de montrer dans ce livre, c'est que ces paradis fiscaux, ils sont au cœur du fonctionnement de la mondialisation, au cœur de la finance, bien sûr. On sait bien que les banquiers, que les fonds spéculatifs les utilisent beaucoup, mais les multinationales aussi. D'après notre petit calcul, on pense qu'environ 30% du stock des investissements à l'étranger, donc quand les grandes multinationales vont investir à l'étranger, 30% de leurs stocks sont dans les paradis fiscaux. Il y a un travail remarquable de la Banque de France qui a été fait il y a un ou deux ans et qui montre que les investissements étrangers en France et les investissements des entreprises françaises à l'étranger sont en gros de 40 à 50% inférieurs à ce que nous donnent les statistiques parce qu'une grande partie de ces flux sont simplement à destination des paradis fiscaux pour des raisons fiscales.
Il n'y a pas d'entreprise du CAC 40 qui ne soit fortement présente dans les
paradis
fiscaux.
Alors ça, c'est une enquête qu'on avait faite dans l'Alternative économique. Au moment du G20 de 2009, on avait montré qu'effectivement, la très grande majorité des entreprises françaises du CAC 40 sont présentes dans les paradis fiscaux, les banquières, mais aussi les autres, et qu'à l'intérieur des banques, il y avait une petite différence entre BNP Paribas, très présente, et les autres un peu moins.
Mais si on publiait l'atlas des multinationales, alors on verrait que les activités les plus profitables sont souvent domiciliées dans les territoires les moins taxés. Et on pourrait mesurer les échanges intra-groupes aussi.
Oui, tout à fait. Le principe d'arriver à siphonner les profits vers les territoires qui sont les moins taxés, il y a vraiment plusieurs techniques pour ça, mais c'est vraiment le principe de base de fonctionnement des multinationales qui fait qu'une grande multinationale américaine comme Google, d'après nos confrères de Bloomberg, paye un taux d'imposition mondial de 2,6%. Parce que pourquoi? L'essentiel des profits en fait est localisé à la Barbade, puisque c'est là, a priori, que est situé le droit d'utilisation de la marque Google que cette filiale située à la Barbade fait payer à l'ensemble des autres filiales du groupe pour siphonner les profits.
Ah, il faut maintenant avoir un atlas du monde et notamment de l'Océanie, du Pacifique, pour comprendre la classe des entreprises multinationales. Vous brûlez de parler de l'histoire de la lutte contre les paradis fiscaux. Vous citiez le G20 de 2009, mais ça a commencé bien avant. Mais essayez de nous expliquer comment ça marche. Quand même, je suis un ménage français. Je ne vais pas aller placer en Suisse, je vais dans une société écran que je vais domicilier, je ne sais pas, au Panama.
Généralement, l'utilisation des paradis fiscaux est très géographique. Si vous êtes français, il y a de grandes chances que vous utilisiez la Belgique, la Suisse, le Liechtenstein ou l'Autriche. Hein. C'est vraiment le principe de base. Si vous êtes américain, vous utilisez les Caraïbes, les petites îles des Caraïbes ou les grands territoires autour des Caraïbes.
Et après, là, je fais des placements dans les sociétés d'investissement qui opèrent là,
généralement,
dans d'autres paradis
généralement,
fiscaux.
Généralement, vous payez des vous ne faites plus rien. Surtout, vous pouvez rester en France. Vous pas besoin d'être un exilé fiscal hein, pour reprendre les débats de la campagne présidentielle. Ça, c'est vraiment Johnny Hallyday ou Elizabeth Taylor dans les années 60 qui va se domicilier en Suisse pour payer moins d'impôts. Ça, c'est vraiment l'utilisation des paradis fiscaux à la papa. Là, vous utilisez un technicien, un fiscaliste, un avocat qui fait tout ça sans que vous ayez à vous déplacer.
Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un TP, un touriste permanent
Alors, c'est vrai que le touriste permanent, c'est celui qui n'habite nulle part en fait, mais qui habite concrètement bien sûr quelque part, mais qui, grâce aux astuces juridiques et des avocats, va être un résident fictif, c'est-à-dire qu'il va en fait travailler dans un endroit, être payé dans un autre, payer des impôts encore dans un troisième endroit.
Alors maintenant, on en vient à l'histoire de la lutte contre les paradis fiscaux, qui est un grand sujet de relations internationales. Quelle était jolie et facile avant la prolifération que vous décrivez, Christian Chavagneux, quand par exemple, une fois la guerre d'Algérie finie, là je remonte à octobre 1962, le général de Gaulle a décidé de s'attaquer à Monaco, où trop de citoyens français allaient se réfugier pour ne pas payer paient d'impôts. Alors, on a multiplié les contrôles jusqu'à provoquer des embouteillages et beaucoup de reportages.
Dans la principauté, l'atmosphère est tout à fait normale et au poste frontière, des badauds viennent assister au contrôle volant des douaniers. Tout se passe d'une façon rapide et courtoise, comme vous allez pouvoir le constater.
Service des douanes, contrôle routier. Oui. Vous avez les papiers de la voiture, s'il vous plaît. Merci, madame. Les papiers de la voiture, ceci, c'est le permis de conduire. Ah.
C'est une question d'organisation, Marc, et on s'y fera.
Voilà, merci, madame. Bien, c'est très bien. Voilà, merci, madame.
Et merci à son Altesse Sérénissime Grâce qui a servi en plus, c'était la nouvelle épousée du prince Régnier, de médiatrice de ce conflit. Mais conflit d'opérette, si on regarde maintenant les véritables enjeux internationaux qu'il faut prendre à bras-le-corps. La guerre contre les paradis fiscaux existe en pointillé depuis...
Oui, depuis les années 20, en fait, tout à fait, depuis la Société des Nations, et déjà, qui bloque eh bien, la Suisse. On sait que le représentant suisse à la Société des Nations a dit que c'était un sujet important, mais sur lequel il fallait se hâter avec une prudente lenteur.
Et c'est là que les États-Unis commencent à intervenir aussi. Oui, les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée, dit le ministre
Henri
de l'économie de Roosevelt.
Le deuxième ministre des Finances de Roosevelt et qui s'attaque fortement à la lutte contre la fraude fiscale. Et il y a un remarquable rapport qu'on peut trouver sur le net et dans l'économie politique, la revue d'alternatives économiques. Le texte est en français.
Le rebond de la lutte, on va laisser tomber les années molles d'après la Deuxième Guerre mondiale, vous les qualifiez du moins ainsi, c'est fin des années 80, ou plutôt fin des années 1990, avec toujours un rôle moteur des États-Unis.
Oui, tout à fait. Les États-Unis de Bill Clinton vont pousser la communauté internationale à établir des listes. Donc on a l'OCDE, une grande organisation économique, qui va faire une liste des pays qui aident à frauder les impôts. Vous avez le GAFI, qui lutte contre le blanchiment d'argent, qui va faire sa liste pour lutter contre, pour désigner les pays qui facilitent le blanchiment d'argent, puisqu'on appelait à l'époque le Forum de stabilité financière, devenu depuis la crise des subprimes, le Conseil de stabilité financière, qui joue un rôle important, parce qui désigne les pays qui aident les grandes banques à tourner les règles de prudence internationale. Et ça, c'est un rôle tout à fait mésestimé des paradis fiscaux. Ils contribuent à l'instabilité financière internationale.
Ce sont les États-Unis qui ont quand même bousculé le secret bancaire suisse quand le gouvernement américain a menacé de retirer la licence de l'UBS, la principale banque suisse, si elle ne donnait pas les coordonnées bancaires de 250 clients.
Oui, tout à fait. Les Suisses ont complètement craqué. Ils ont donné 4450 noms. Les Américains, de manière très subtile, ont profité du fait qu'ils faisaient pression publiquement sur la Suisse pour dire « Écoutez, on a un programme de dénonciation volontaire. Si avant que la Suisse nous envoie les 4450 noms, vous vous dénoncez, il n'y aura pas de poursuite pénale. » Et combien de personnes sont arrivées ? 15 000 personnes sont arrivées. Donc vraiment tout bénéfice pour le fisc suisse.
Vous parlez du Conseil de stabilité financière qui établit une liste. L'OCDE, l'Organisation des pays les plus développés, établit une liste. Les pays de l'OCDE comme la France établisse une liste, ça fait beaucoup de listes. Et ces listes fonctionnent parfois comme des ardoises magiques. C'est-à-dire que maintenant, en France, dans la liste de notre pays, il y avait 19 pays qui étaient jugés noirs en 2011 et maintenant il n'y en a plus que 8.
Oui, la liste française est complètement ridicule. Elle n'a absolument rien à voir avec le poids des paradis fiscaux dans la mondialisation et dans le poids qu'ils peuvent jouer d'ailleurs pour les grands acteurs économiques français. Il y a quand même une liste qui est plus intéressante hein, aujourd'hui, puisque les trois listes que j'ai citées tout à l'heure, elles datent des années 2000 et comme vous dites, c'était l'ardoise magique. Il suffisait de dire « Oh, bah, je vais faire mieux, vous inquiétez pas, on sortait de la liste ». Non, aujourd'hui, c'est pas pareil.
On passait du noir au gris.
On passait du noir au gris et du gris au blanc, mais vraiment sur une simple déclaration. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Il y a un contrôle qui est exercé. Donc oui, vous dites que vous allez donner des informations fiscale à l'étranger, mais est-ce que vous avez traduit en droit interne cette promesse et est-ce que vous donnez vraiment des informations ? Et là, on sait par exemple que la Suisse à la France ne donne pas d'informations de qualité.
Mais il ne s'agit pas seulement de s'attaquer au territoire en fournissant des listes.
Il s'agit aussi de s'attaquer aux grands acteurs privés, ouais, tout à fait. Et là, les États-Unis ont vraiment très bien fonctionné en s'attaquant à UBS. Il faut s'attaquer aux grandes banques internationales, il faut s'attaquer aux avocats fiscalistes, à tous ceux, ces spécialistes du droit et du chiffre, qui facilitent l'utilisation des paradis fiscaux.
Enfin, votre recommandation à vous, c'est créer l'insécurité. Christian Chavagneux, je rappelle qu'avec Ronen Palan, vous avez publié aux éditions de La Découverte un petit volume fort accessible et utile qui s'intitule « Les paradis fiscaux ».
Donc, depuis 3 ans qu'on se voit une fois par semaine, vous allez me manquer.
C'est ça, oui.
Sans indiscrétion, qu'est-ce que vous allez faire de tous ces lingots ? Ça doit tenir une sacrée place, non ? Vous les mettez où ?
Ça ne vous regarde pas, monsieur Hervé.
Enfin, on revoit Monsieur Christian, j'ai nommé Christian Chavagneux, samedi sur France Inter, dans un instant La Tête au Carré, qui est en direct, plutôt en différé, de Montréal, coopération scientifique franco-québécoise, et demain La Guillotine. L'émission était réalisée par Marie Guerrier avec Patrick Henry et Sophie Moreno.